Que je suis content de le recevoir à l'émission parce que Philippe Coderre est un avocat spécialisé en droit du travail, mais surtout, c'est un chroniqueur régulier à l'émission de Louis-Philippe. Et la dernière fois que je l'ai entendu, il donnait ses billets des Olympiques en ondes à des auditeurs. Alors peut-être serons-nous chanceux ce matin. Salut Philippe, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
As-tu des billets des Olympiques qui traînent dans le fond de tes poches ou quoi?
Ben sûrement, là. Écoute, je peux en donner d'autres. Le 6 novembre, vous voulez les faire tirer, je ne suis pas disponible.
Non, non, alors, on va laisser ça à Louis-Philippe, il n'y a pas de problème. Je te tire la pipe un peu, mon vieux. On va parler d'un sujet qui est très, très sérieux, celui de la candidate à la mairie, France Bellil, qui, lors de son passage à Tourisme Outaouais, ce que je comprends, puis j'ai lu le texte de Bélanger ce matin dans Le Droit, puis hier, on l'a dit sur nos ondes, on avait besoin d'une restructuration, de faire un ménage, ce qu'elle a fait. Ça se fait jamais facilement, ça. Et ça a amené beaucoup de chaos, un climat, semble-t-il, toxique au sein de l'organisation. Je voudrais savoir ce matin, c'est quoi la définition du harcèlement en milieu de travail, Philippe?
Oui, bien, le harcèlement, c'est prévu dans la loi sur les normes du travail. Donc, ça fait quand même depuis 2004-2005 qu'on a cette définition-là. Je ne la lirai pas ce matin, là, mais essentiellement, il y a 5 critères qu'on doit rencontrer. Il doit y avoir une conduite vexatoire. Donc, vexatoire, ça veut dire que ça nous vexe. C'est blessant. Donc, ça, c'est très subjectif, évidemment. Ça doit être répété dans le temps. Ça, c'est un critère très, très important. Du harcèlement, là, c'est un peu le syndrome de la goutte chinoise. C'est-à-dire te faire insulter une journée, ça peut passer, mais si c'est à chaque jour, pendant des mois, bien là, une année, ça devient insupportable. Puis quand on agit comme ça, le troisième critère, c'est que les gestes doivent être hostiles, donc violents ou, belliqueux, ou non désirés. C'est-à-dire que la personne ne veut pas faire l'objet de ces gestes-là. Si ça entraîne une atteinte à votre dignité ou à votre intégrité physique ou psychologique et un milieu de travail néfaste, on tombe dans le harcèlement. Puis là, ce qui est important de comprendre, c'est que du harcèlement, par contre, ça s'interprète de façon subjective et objective. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, on doit croire qu'on est victime de harcèlement nous-mêmes, mais par la suite, le tribunal, quand il analyse la question, va se demander si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, jugerait qu'il y a du harcèlement. Parce qu'évidemment, les sensibilités de l'un et l'autre, là, ça peut varier.
Bien, tu as tellement raison, Philippe, puis je me mets exactement dans le rôle de la personne qui le vit, mettons, là, qui a une décision. Quiconque a une décision de son patron qui ne fait pas son affaire peut associer ça à du harcèlement. Mais les décisions de nos patrons, ils n'y font pas toujours plaisir, puis c'est pas toujours du harcèlement. Changer des manières de faire, ça peut être interprété comme étant du harcèlement, mais c'est peut-être pas nécessairement du harcèlement, là.
Exactement. En fait, ça fait partie du droit de gérance, normalement, et le droit de gérance ne constitue pas du harcèlement. Puis une situation qu'on voit très, très, très souvent, là, c'est dans des entreprises ou des OBNL où il y a des CA qui change là à toutes les 4-5 ans, et on a un DG qui est en place depuis 20-25 ans. Le nouveau CA arrive, décide qu'ils veulent mettre leur homme ou leur femme en poste, et quand la nouvelle ou le nouveau DG arrive, ben là, les employés qui sont là depuis longtemps réalisent que, mon Dieu, ce sera plus pareil. Faut changer nos façons de faire. On n'a plus aussi autant de liberté, de flexibilité. Puis ça, ben c'est un terreau fertile, évidemment, pour qu'il y ait des plaintes d'harcèlement. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire la nuance. Un employeur peut exercer son droit de gérance. Il doit toujours le faire dans le respect et en s'assurant qu'il n'y ait pas de harcèlement. Puis c'est ça qui est très difficile, parfois, pour certains gestionnaires. Là, cette ligne-là est très, très mince.
Dans le cas de harcèlement ou de conflit, parce que ça se peut qu'il y ait aussi des conflits de personnalité entre des personnes, puis que ça dégénère. On l'a vu dans le passé, on l'a déjà vu dans certaines entreprises. On le voit peut-être même dans sa propre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait une plainte? C'est quoi le mécanisme d'une plainte, Philippe?
Oui, bien d'abord, il y a deux plaintes. Il y a une plainte qu'on peut faire. La première, c'est en vertu de la politique de harcèlement à l'interne. Ça, c'est quoi cette politique-là? C'est une politique que toutes les entreprises doivent avoir impérativement au Québec. Si vous ne l'avez pas, vous êtes présumé ne pas prévenir le harcèlement dans votre entreprise. Puis dans cette politique-là, ce qu'il y a, c'est souvent des mécanismes d'enquête, de médiation, etc., etc., pour essayer de régler le harcèlement à sa source même.
Moi, je ne fais pas confiance en ça une seconde. Voyons donc si la compagnie qui me traite, là, le patron qui me traite, m'a allé faire une plainte aux ressources humaines sur mon patron avec qui ça ne marche pas, puis que je pense qu'il est victime, que je suis victime de harcèlement. C'est quoi les chances que la compagnie soit neutre dans ce dossier-là puis prenne ma part, mettons, face à un patron?
Ben là, c'est ça. Si vous ne croyez pas au processus, il y a toujours la plainte à la commission des normes du travail que vous pouvez déposer. Puis ça, cette plainte-là, ultimement, la CNSST va faire enquête. Si elle détermine qu'il y a assez d'éléments qui vont militer en faveur du harcèlement, ils vont vous fournir des avocats gratuits pour que ce soit judiciarisé. Mais pourquoi les gens utilisent le recours interne? C'est que l'employeur, lui, a deux obligations. Il doit prévenir le harcèlement et il doit le corriger, y mettre fin, lorsqu'il en a connaissance. Donc, si vous n'utilisez pas le mécanisme interne prévu par la politique d'harcèlement dans votre entreprise, l'employeur va arriver au tribunal administratif du travail et va dire « Comment voulez-vous que je m'acquitte de mon obligation de corriger le harcèlement si je ne le savais pas? » Évidemment, il y a des distinctions. Quand le harcèlement vient du boss en haut, bien, c'est évident que l'employeur le sait qu'il y a du harcèlement, c'est lui qui le fait, le harcèlement. Mmh. Mais quand ça se passe à plus bas niveau, le harcèlement, et vous n'utilisez pas la politique parce que vous ne faites pas confiance, vous vous dites « Cette personne-là qui me fait du harcèlement, elle a des alliés plus hauts, ça ne sert à rien. » Ben, l'employeur va arriver, lui, à la cour, puis va dire, ben, je pouvais pas y mettre fin, je ne savais pas qu'il y avait du harcèlement.
Bon, mais justement, depuis quand est-ce que les entreprises, de façon impérative, doivent avoir cette disposition-là auprès des employés?
De mémoire, là, c'est janvier 2019, et ça pourrait être 2020. Là. Je suis un peu mêlé dans les dates.
Parce
là,
que Mme Bellil,
janvier des dernières années.
Dans le cas qui nous occupe, Mme Bellil est arrivée, elle, à Tourisme Outaouais en 2015.
Ouais, ben, faut savoir que les entreprises avaient déjà des politiques. Okay. Parce que la jurisprudence avait déjà déterminé que si vous n'aviez pas de politique, on présumait que, dans le fond, vous ne mettiez pas de moyens en œuvre pour prévenir le harcèlement. Donc, le législateur est juste venu codifier ce que la jurisprudence disait déjà.
Bon,
donc, la plupart des entreprises avaient déjà des politiques à l'avant.
Hier, elle a dit qu'après vérification près de Tourisme Outaouais, il n'y a pas eu de plainte, on nous l'a confirmé également, puis il n'y a pas eu non plus, semble-t-il, de plainte à la CNESST. Puis là, on apprend même qu'il y a eu un genre d'enquête externe qui a été faite, un sondage sur le niveau de satisfaction, puis que ça aurait atteint 84% de satisfaction des employés qui ont été sondés. Ça te dit quoi, toi, Philippe, comme avocat en spécialiste en droit du travail?
Ça ne me dit pas grand-chose parce que dans ces dossiers-là, c'est très difficile de prendre deux revers à une médaille. Puis souvent, plus je ne sais pas de présumer de quoi que ce soit, mais des fois, il y a des employés qui sont timides ou gênés ou qui ont peur de dire leur vrai état d'âme. Mais il y a aussi des situations où la personne qui est victime de harcèlement parle très fort. Donc, elle contamine des fois certains autres collègues et ça a l'air d'être toute la gang qui est satisfaite. Puis finalement, tu réalises que c'était juste 2-3 personnes sur 30. Ça arrive, ça. Alors, faut pas... Je pense qu'en ce moment, c'est dur de mettre le doigt sur ce qui s'est passé parce que personne n'était là. Ce que je peux dire, c'est que, par expérience, quand il y a des changements dans une entreprise, je vous dirais que ça compose peut-être 75% des cas d'harcèlement. Souvent, c'est du harcèlement qui n'est pas toujours fondé parce que les gens mêlent droit de gérance avec harcèlement. Mm-hmm. Par contre, l'employeur doit quand même, comme je disais tantôt, l'exercer convenablement ce droit de gérance. On ne peut pas isoler les personnes, on ne peut pas les tabletter, on ne peut pas les insulter. Mais quand c'est des gros changements dans une entreprise qui sont opérés, là, ben à ce moment-là, c'est sûr que parfois, les gens vont percevoir du harcèlement.
Y est-tu trop tard pour eux autres d'aller à CNESST?
Non, c'est 2 ans maintenant le délai. Donc, on peut déposer une plainte jusqu'à 2 ans après la dernière manifestation du harcèlement.
Je te revire ça de bord. Je te mets avocat représentant Mme Bellil, puis que tu vois qu'il y a plein d'employés qui écrivent toutes sortes de choses sur Facebook sans la nommer. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça qu'elle peut faire?
C'est sûr que là, on tombe dans un dossier civil. Et si Mme Bellil juge que ce sont des propos qui sont mensongers, qui sont faux, qui sont publiés et émis dans le but de lui nuire, évidemment, il y a toujours des recours en diffamation qui peuvent être intentés. Alors ça, c'est quelque chose qu'elle pourrait étudier avec ses avocats, mais c'est certainement un recours qui existe.
Parce qu'elle, dans le fond, ce qu'elle dit, je suis blanc comme neige, j'ai fait une job, ça n'a pas toujours été facile, il y a eu un grand roulement de personnel, il n'y a pas de plainte contre moi, il y a eu un examen qui a été fait par mes supérieurs, par le comité, le conseil d'administration, tout est beau, je comprends pas qu'est-ce qui se passe.
Ben c'est ça, je me mets dans ses souliers, ça doit pas être facile ce matin, évidemment, de lire ça. Vraiment, moi, si vraiment elle est frustrée puis elle pense que il n'y avait pas d'harcèlement puis qu'elle a des bonnes chances de succès de démontrer la mauvaise foi un peu dans les propos qui ont été émis, elle pourrait toujours exercer des recours civils, effectivement, parce que c'est ça qui est le danger. Hein. Quand quelque chose devient se transpose sur la place publique, je veux dire, l'opinion des gens est faite. Hein, dans le sens que, peu importe la vérité, les gens vont se faire une première opinion de la situation, puis on est souvent pris avec ça. Donc, un des recours qui existe pour la personne qui est victime de propos de cette nature-là, c'est d'aller devant les tribunaux pour démontrer que les propos finalement étaient diffamatoires. C'est un des recours qui est à notre disposition.
Très intéressant. Merci beaucoup de ce point de vue et de cette spécialité. Philippe, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
Merci Michel. Je t'apprécie, hein, s'il vous plaît, pour te parler avant d'avoir bu mon premier café.
T'es très gentil. Bon café, puis surtout, bonne chronique avec LP plus tard cette semaine.
Merci, au revoir.
Bye-bye. Philippe Coderre, avocat en droit du travail.